Blabla, blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla, le podcast de Bike Café.
Bonjour Grégoire.
Salut Patrick.
Bah écoute, c'est en découvrant ton post sur LinkedIn que j'ai appris la bonne nouvelle, Mulbar ça repart. Après avoir failli disparaître, après avoir failli disparaître deux fois depuis le Covid, la marque de nutrition sportive Mulbar, créée en 2008, hein, tu me préciseras tout ça, revient dans la course. La liquidation judiciaire en 2023 avait empêché tout développement de produits. Bah, maintenant que les feux sont passés au vert, tu nous annonces un redémarrage prometteur, avec notamment des boissons sport à diluer, qui sont la suite logique des gels diluables qu'on avait vu apparaître en 2017. Les idées te manquent pas hein, pour faire évoluer Mulbar, mais aujourd'hui c'est plutôt la trésorerie qu'il faut reconstituer pour les financer. Et puis le temps forcément limité, puisque finalement tout repose sur tes larges épaules, mais quand même t'es tout seul. Tu vas nous parler de ce nouveau départ, ou ce renouveau, enfin je sais pas comment tu le baptiseras, ouais. Et de toutes ces nouveautés qui sont présentes et à venir. Mais avant de parler de tout ça, de parler d'avenir, est-ce que tu peux nous parler de la saga Mulbar, parce que, et comment cette marque se singularise dans un marché où de nombreuses marques sont présentes. Donc est-ce que tu peux nous dire comment
est
née Mulbar?
Ça tombe bien. Alors écoute, c'est tout simple. Mulbar, ça a été créé en Angleterre en 2008 par deux Anglais qui s'appelaient Alex et Jimmy, qui ont eu l'idée de créer cette marque lorsqu'ils ont fait l'ascension de la Aconcagua, qui est le point culminant de la cordillère des Andes, qui est à 6400 mètres. Et en fait, ils ont eu des problèmes gastriques lors de leur ascension à cause de produits qu'ils avaient achetés en grande surface ou dans le commerce en Angleterre, mais qui contenaient visiblement des conservateurs ou on va dire des cochonneries, qui leur ont mis les boyaux à l'envers, comme ça arrive souvent encore dans le marathon où tu vois des gens à quatre pattes en train de vomir. Bon, le corps est soumis à rude épreuve selon l'intensité et puis surtout l'altitude. Donc quand ils sont rentrés en Angleterre, ils se sont dit « bon, bah s'il n'y a pas de produits suffisamment naturels sur le marché, on va créer les nôtres ». Un petit peu comme on a connu en France Michel et Augustin qui ont commencé dans leur cuisine, tu te rappelles peut-être,
D'accord, à faire des biscuits.
Et qui sont devenus une énorme marque rachetée par Danone et puis par Ferrero ensuite. Bon, blablabla. Donc, lorsqu'ils ont cherché un nom de marque pour cette marque-là, bah, ils se sont rappelés que lorsqu'ils faisaient cette ascension, contrairement au Népal où les expéditions utilisent des yaks, et ben en Amérique du Sud, ils utilisent des mules. Parce que la mule, c'est un animal très endurant.
Ça a failli s'appeler Yakbar, quoi. Donc.
Ça aurait pu, ils auraient fait l'Everest ou le K2, ça serait appelé Yakbar, tu as tout à fait. Et donc, voilà, ils se sont dit, bah, tiens, nous, on aime bien les animaux, et puis, bah, il faut avoir un logo. Donc, ils ont, j'imagine aussi, regardé, bah, voilà, la mule, le logo était très peu utilisé, contrairement aux chevaux, aux crocodiles ou à que sais-je. Donc, ils ont choisi la mule, et puis, alors, raison de plus, c'est que le camp de base du départ de la Aconcagua s'appelle Plaza de Mulas. Donc, c'est bien là où les expéditions viennent chercher leurs porteurs et leurs mules. Et donc, voilà, ça faisait du sens.
D'accord.
Que Mulbar s'appelle Mulbar parce qu'en anglais, ça veut dire donc la barre de la mule. Il y a encore pas mal de gens qui ne voient pas le rapport, qui me disent « mais pourquoi ça s'appelle Mulbar ?» ils ont peut-être pas lu tout l'historique de la marque, mais voilà, donc c'est la barre de la mule.
On rattrape le manque donc de culture de certains de nos sportifs qui s'étonnent.
Exactement. Alors moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Écoute, moi, en 2008...
On se connaît un peu ton histoire, et puis moi j'étais consommateur, j'étais coureur, j'ai découvert cette marque alors que je faisais de la course à pied, donc j'ai une antériorité à la fois sur le produit, mais effectivement, dis-nous ce que tu es venu faire dans cette marque du coup.
Moi, en 2008, j'étais en train de lancer Red Bull en France. J'étais directeur commercial de Red Bull. Donc, j'ai eu une super aventure professionnelle. Et en 2010, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Ça faisait 16 ans que je bossais dans des grosses boîtes, Procter, PepsiCo. Et je voulais monter ma propre boîte. Et j'ai eu l'occasion, par mon réseau, par le hasard, on va dire, de rencontrer Alex et Jimmy qui cherchaient un distributeur pour la France. Et donc, je me suis dit, tiens, pour monter une société, pour avoir quand même une activité, des revenus rapides, prendre la distribution d'une marque, c'est bien parce que quasiment dès le premier jour, tu fais du chiffre d'affaires. Je me rappelle que j'ai mon premier magasin en France, c'était Planet Jogging, qui était un énorme magasin de running avec la Grande Armée à Paris.
Ah, je m'en souviens.
Qui a malheureusement fermé, qui a fermé depuis, mais c'était le temple du running à Paris.
Ah ouais, je m'en souviens très
bien. C'est les premiers qui m'ont fait confiance, ils ont goûté les produits, ils ont tout de suite dit « on prend » parce que la spécificité de Mulbar en 2008, à l'époque, le marché, il y avait déjà quelques marques, mais qui sommeillaient, qui ont ronronné depuis pas mal de temps, qui étaient pour la plupart détenus par des labos pharma et dont l'objectif était plutôt de faire des produits on va dire efficaces, c'est-à-dire qui promettaient de la performance. Ou,
ouais, d'accord, mais ça avait un goût de labo, ça avait un goût de laboratoire.
Exactement. Ouais. On va dire que le goût, le plaisir pendant l'effort et la qualité des ingrédients n'étaient pas, à l'époque, une priorité, parce que peut-être que le marché ou la clientèle ne le demandait pas non plus.
Bah, je pense aussi que si vous, c'est un segment commercial où finalement tu peux mettre en avant justement ces qualités venant de laboratoire. Donc en fait, tu fais passer le goût en second, mais tu mets en avant plutôt la quête de performance et
exactement.
Venant d'un univers pharmaceutique, ça peut être crédible et ça peut se comprendre pour un client. Quoi. Donc il peut accepter le goût dégueulasse du truc en contrepartie d'une efficacité. Quoi.
Et exactement, mais alors ça, on va dire que ça concernait plutôt, on va dire, des mecs, des gars, qui se disaient, moi, je m'en fous du goût, du moment que ça va me faire courir plus vite ou pédaler plus fort, et ben, je m'en fous. Mais y a aussi 50% des sportifs qui sont des sportives, et tu sais que les femmes sont beaucoup plus attentives aux ingrédients, au goût, à tous ces trucs-là.
Ah ouais.
Et nous, quand j'ai repris cette marque, et donc après les deux, trois premiers salons que j'ai faits, je me suis aperçu déjà que toutes les marques concurrentes étaient franchement pas très bonnes à manger. Donc moi, j'ai commencé à faire goûter les produits. Donc je goûtais les barres en petits bouts, et puis les gens, ils venaient, ils goûtaient, et puis ils ouvraient des grands yeux en disant « Mais c'est bon, votre truc !» C'était incroyable de faire de la... Non, mais c'était super rigolo. Si c'était incroyable de faire de la nourriture bonne à manger, tu vois. Et donc, les concurrents nous regardaient d'un mauvais œil parce qu'ils disaient « Putain, les salauds, ils font goûter leurs produits. Nous, on ne peut pas parce que si les gens les goûtent, ils vont se barrer. »
Ils achèteront pas.
Donc, assez rapidement, on est devenu une marque, notamment avec pas mal de clientèle féminine qui disait « Au moins, vos valeurs et vous prenez pas... » la performance depuis le début, nous on dit prenez du plaisir pendant l'effort, c'est des ingrédients 100% naturels, c'est bio et faites-vous plaisir parce que pendant l'effort, pendant le sport, quand le corps finit par lâcher, c'est le mental qui prend le relais pour finir la course, arriver jusqu'à la ligne, et pour satisfaire le mental, rien ne vaut la bonne alimentation.
Il faut quand même garder le plaisir quand on produit un effort comme ça, il faut quand même garder un certain plaisir, et puis ça allait dans le sens aussi de l'évolution globale de la quête d'une bonne nourriture au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait,
je pense
qu'il y a eu cette attente-là,
la
société a évolué depuis cette époque.
Ouais. Il y a eu l'avènement du bio, en 2010, on va dire que les gens qui allaient dans les magasins bio, c'était des... je ne veux pas faire de mauvaises caricatures, mais c'était des gens un peu particuliers. Et puis le bio s'est développé et est devenu quelque chose où tout le monde...
Ne fais pas de caricature, je t'en prie Grégoire,
je suis
bio since, 40 ans.
La première,
donc en fait, je faisais partie de ces gens qui allaient au marché bio de Boulogne-Billancourt, je ne sais pas si tu l'as connu, pour aller chercher mes graines, mes machins, etc. Je faisais germer les graines, etc. Et moi, j'étais convaincu
que
qualité de la nutrition. Ah bah ouais.
Tu confirmes que le bio, c'était très marginal dans les années 2000.
Je confirme.
Et que l'explosion a dû arriver aux alentours des années 2015.
Ouais, je voyais les chevelus avec pantalons de velours, etc., sur les marchés bio.
C'est ça.
À l'époque, c'était effectivement une population qui était un petit peu en marge, qui y croyait. Et pour certains, enfin pour ma part, moi j'avais lu un certain nombre de bouquins diététiques, et j'avais fait cette recherche personnelle sur moi-même, et je peux te dire que ça a marché, puisque du coup, je suis devenu champion départemental de cross. Enfin, j'ai battu tous mes records après avoir fait mon coming out nutritionnel, je dirais, à cette époque-là. Donc, en fait, quand Mulbar, je l'ai rencontré Mulbar, comme tu l'as dit.
Grâce à ça.
Voilà, c'est ça, je suis resté jeune grâce à ça. Mais si tu veux, tes petits morceaux là que tu distribuais, je les ai connus comme une partie de tes clients, effectivement, ça faisait complètement la différence par rapport à ce qu'on trouvait. Goûté du gâteau sport sur les trails, des trucs qui m'étouffaient, des machins qui n'étaient pas possibles.
C'était pas le même délire, quoi.
Voilà, c'est pas le même délire.
Et puis, du coup, Du coup, la marque a très vite démarré. Et moi, je me rappelle, à l'époque, c'était assez hallucinant. J'appelais les gens au téléphone, des magasins de vélo, des magasins de running. Les gars, je leur disais, bah voilà, genre, une gamme avec, je donnais les recettes avec des noms un peu sympas, mangue-noix de cajou, abricot-noix, chocolat orange. Et les gens me passaient une commande par téléphone sans même demander à goûter les produits. Maintenant, c'est complètement impensable. Déjà, ils te répondent plus au téléphone parce que des marques, il y en a des milliers. Puis, ils te disent, de toute façon, au mieux, ils sont intéressés, bah, c'est envoyez-moi des produits que je goûte. Mais à l'époque, on prenait des commandes à 300 euros par téléphone en quelques minutes, bah, parce qu'on était les premiers à arriver avec un discours tellement novateur. Ouais. Donc, ça a super bien démarré. Mais néanmoins, les Anglais, en 2015, m'appellent en me disant « Grégoire, on est un peu dans la panade parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus de trésorerie. » Ils avaient fait plusieurs levées de fonds où ils avaient dilué, c'est-à-dire qu'ils avaient vendu au fur et à mesure leurs actions, et ils n'avaient plus que 7% de la société. Tout le reste appartenait à des investisseurs qui avaient mis des billes. D'accord. Mais malheureusement, bah, ces billes, ils les ont dépensées bah, dans des opérations de marketing, à sponsoriser des courses à l'autre bout du monde, et qui malheureusement n'ont pas permis de développer la marque en conséquence. Et donc, ils se sont trouvés bah, en manque de cash, et là, bah, il ne leur restait plus qu'un mois à vivre. Et ils m'ont dit, bah écoute, nous, de toute façon, voilà, on n'arrive pas à relever des fonds parce qu'on n'a plus de, on a plus de d'actions à vendre, il nous reste que 7%. Les investisseurs sont désabusés, ne veulent pas remettre au pot, donc l'aventure va s'arrêter. Et alors moi, bah, j'avais quitté mon job 2-3 ans auparavant. Mulbar était en pleine croissance en France. Alors c'est sûr que la France, à l'échelle de leur business, je vais peser 15% de leur chiffre, tu vois. Donc c'est pas ça qui avait changé la donne. Et donc je me suis dit, bah attends, moi si ça s'arrête, mon aventure elle s'arrête aussi. Et puis tu vois, au bout de 3 ans, quand t'as quitté un super job très bien payé, t'as pas envie
si tu crois au produit, parce que là le produit
j'y croyais toujours, mais je te raconterai la suite de l'aventure après. Donc comme par chance j'avais mis un peu de côté, bah parce que j'avais voilà un job salarié depuis une quinzaine d'années et que j'avais des économies, je leur ai proposé de racheter la marque. Et donc en 2015 j'ai racheté la marque Mulbar, et j'en ai profité pour m'associer avec Denis Gargaud. Donc à l'époque j'habitais Aix-en-Provence, et donc Denis c'était l'ami d'un ami qui venait de lui de lancer une marque de nutrition sportive aussi, qui proposait du gel en éco-recharge à diluer. Donc c'était à la fois un gel et aussi une boisson comme un sirop. D'accord. Et donc il cherchait un distributeur.
C'est là que je t'ai connu à Aix, quand je suis arrivé à Aix. Ouais, d'ailleurs, c'est toi qui m'as un peu briefé sur la ville à l'époque. On s'était rencontrés dans tes bureaux.
Exactement, je venais d'arriver un an auparavant.
Hein, ouais, tu m'avais montré ces petits conteneurs en silicone qui permettaient de faire des recharges de gel, etc. Et donc c'était déjà un peu aussi innovant, puisque là il y avait des choses qui arrivaient dans le monde du trail, où on avait ce problème de conditionnement de trucs pour éviter de jeter, etc. Autant avoir un contenant réutilisable et donc souple, voilà, qu'on pouvait caser dans les poches ou dans les sacs à dos. Donc c'était aussi nouveau, ça.
Sans que ça fuit, donc exactement, pas besoin de les jeter. Ouais. Et on était bien avant l'heure en eau plastique ou en... Voilà, ce qui est vraiment apparu et qui a explosé au moment du Covid. Donc tu vois, on est arrivé 7 ans trop tôt avec cette innovation. Mais n'empêche que ça m'a permis de rencontrer Denis, donc on s'est associés, on a racheté la marque tous les deux. L'année suivante, lui, il est devenu champion olympique à Rio, en canoë, donc il a pris la médaille d'or au JO, donc ça nous a donné un bon petit coup de projecteur aussi, parce qu'il a fait toutes les télés.
Ah, puis les mecs qui font du canoë, ils deviennent célèbres à terme, hein, n'est-ce pas?
Certains.
Il y en a certains qui...
lui, un petit peu moins malheureusement, parce qu'il a eu qu'une seule médaille d'or, mais il a un prédécesseur, je crois qu'il s'appelle Tony quelque chose.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est un mec qui n'est pas connu, là, dont on parle jamais en ce moment.
Non. On n'en parlera plus trop d'ailleurs, hein. Je crois que c'est sa carrière est finie.
Ouais, c'est sûr.
Mais voilà, lui, il a pris 3 médailles d'or, donc c'est sûr que quand tu as 3 médailles d'or, tu rentres dans le panthéon des sportifs les plus connus.
Ouais, surtout en France, hein, les médailles d'or sont pas non plus pléthoriques.
Donc ça nous a bien boosté, et puis bah, en 2016, on a fait une levée de fonds, parce qu'on cherchait de l'argent, on avait plein d'idées pour développer la marque. Donc là, elle nous appartenait à 100%, hein. On avait racheté la marque au niveau monde. On voulait étendre la marque au niveau des pays, on était dans une vingtaine de pays. Et donc, pensez à ce moment-là, donc, suite à notre levée de fonds, on a levé bah, 1 million d'euros quand même, ouais. Dont 500 000 euros auprès d'une grande banque publique sous forme de prêt, donc qu'il fallait rembourser au bout de 2 ans. On a, ça nous a donné les moyens de recruter une équipe, de prendre des bureaux à Marseille et puis de lancer la gamme des purées. On a lancé des muesli pour le petit déjeuner qui, eux, malheureusement, bah, n'ont pas bien fonctionné. Donc, on les a arrêtés deux ans après. Mais voilà, la marque était lancée. Et bah malheureusement, 2020 arrive le Covid, ouais. Et là le business s'est arrêté du jour au lendemain parce que bah, les gens étaient confinés, il n'y a plus de compétition. Et
ah ouais, les gens consomment. Prendre du Mulbar pour tourner autour de sa table de salle à manger en, voilà. En courant, c'est pas.
Sur son
même
trainer,
si c'est bon, même si c'est bon.
ouais. Donc malheureusement, autant bah il y a des business qui ont explosé grâce au Covid, il y en a pas beaucoup, mais notamment les compléments alimentaires, ouais. Autant tout ce qui était nutrition sportive. Les magasins étant fermés, les salles de sport étant fermées et les compétitions étant annulées pendant 18 mois.
Les réseaux de distribution, puis même les livraisons Internet, du coup, étaient. Enfin, tout ça, c'était devenu compliqué, quoi.
Ouais, alors, ça, on pouvait encore faire des livraisons Internet, c'est un peu plus compliqué, mais surtout qu'il n'y avait plus de demande, parce que les gens n'avaient pas besoin de manger des gels au départ. Étant donné qu'ils étaient chez eux et qu'ils pouvaient se faire des spaghettis, tu vois. Bon. Donc, ça a été la cata. Donc, je me suis séparé, j'avais 4 salariés à l'époque. Je me suis séparé, étant donné que j'avais déjà 500 000 euros de dette, il était hors de question de prendre un PGE et de creuser. Voilà. Donc, j'en ai profité pour remonter à Paris un peu en crash parce que ma famille et mes enfants étaient à Paris. Moi, je faisais la navette à l'époque, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc voilà, l'aventure marseillaise s'est terminée. J'ai continué en solo pendant depuis 2020, en fait. Je suis tout seul. Parce que Denis, lui, était reparti s'entraîner comme un damné pour essayer de se qualifier pour Tokyo. Malheureusement, il n'a pas réussi parce qu'en canoë, il n'y a qu'une seule place et comme il y a 3 ou 4 Français parmi les 20 meilleurs, c'était jamais garanti d'être celui-là. Mais malheureusement, il n'est pas allé défendre son titre à Tokyo. Mais n'empêche qu'il avait un peu arrêté l'opérationnel. Donc moi, depuis 2020, je me retrouve tout seul à gérer la marque.
D'accord.
Bon. Voilà.
Blabla. Le podcast de Bike Café.
D'accord. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant 18 mois, j'avais plus d'activité, donc mon business il s'est complètement écroulé. Et comme je te disais tout à l'heure, j'avais emprunté 500 000 euros auprès d'une banque que j'avais commencé à rembourser en 2019, sauf que 2020, 2021, 2022, incapacité totale de rembourser mon prêt. Et en 2022, ils m'ont attaqué en justice en me demandant 500 000 euros.
Ah bah oui.
Voilà.
Bah tu sais, les banques, même si...
Elles rigolent pas, quoi.
Bah ouais, même si tu leur distribues des petits morceaux tranquille. De 1000 bars pour les amadouer, eux, ça va pas marcher, quoi.
Donc c'est vrai qu'elles m'avaient laissé tranquille pendant 2 ans parce que le gouvernement avait dû dire, laissez les boîtes un peu tranquilles, qu'on les perde pas toutes. Et puis, au lieu de me... d'essayer de trouver une solution, ils m'ont attaqué en justice, donc on a quand même essayé avec un avocat de trouver une négo, de réchelonner la dette, de l'étaler, ils n'ont rien voulu savoir, donc j'ai été obligé de me mettre en redressement judiciaire, et ça a été finalisé par une liquidation en juin 2023. Donc la société a disparu, et la marque a été rachetée 2 semaines après, en liquidation. Donc en fait, la marque a été vraiment hors du marché pendant un mois, le mois de juillet 2023, et une nouvelle société a été créée courant juillet 2023 et la commercialisation a repris début août.
D'accord.
Alors, du coup, moi je suis plus propriétaire de la marque officiellement parce que c'est un investisseur qui l'a racheté. Mais je suis toujours tout seul. Alors, je suis directeur commercial, maintenant je suis salarié, mais je suis toujours tout seul pour la, défendre.
Tu es toujours tout seul au manche, c'est toi qui tiens le manche pour poursuivre l'action.
Toujours capitaine à bord de son navire, ouais. Pour montrer à quel point moi je suis motivé, parce que ça fait quand même 15 ans que je m'occupe de la marque, qu'on me dit qu'elle est super, que les produits sont bons. Et qu'il n'y a pas de raison qu'elle va se relancer. Donc, je fais partie de ces obstinés un peu fous, tu vois.
Ouais, alors justement, deuxième question, de mon introduction, finalement, c'est effectivement dans ce concert de marques qui aujourd'hui existe, puisque tu faisais allusion à une époque d'un marché qui était beaucoup moins encombré. Maintenant, effectivement, chacun invente ou fabrique dans sa cuisine quelque chose qui peut devenir une marque. C'est devenu un peu... Comme les marques de garage, quoi. C'est-à-dire, on fabrique un truc et puis après, on cherche des fonds, on lance, etc. Oui. Et donc, effectivement, comment Mulbar se démarque de cette masse importante d'entreprises qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ont tous, pour la plupart, affichent du bio, affichent, dans le même esprit que Mulbar, des...
Ah bah,
des,
tout le monde se copie, ouais, hein,
c'est
de toute
ça,
façon.
De l'énergie, l'énergie qualitative, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, comment Mulbar émerge dans tout ça, et quelle est sa singularité, et comment on peut la qualifier par rapport à tout ça?
Alors, bah, la marque, en fait, reste sur ses positions depuis 2008, d'être la marque de la naturalité, des ingrédients premium, pas de conservateurs, pas de colorants, que du naturel. Et c'est vrai que la plupart des concurrents qui, à l'époque, prônaient la performance, sont tous passés à la naturalité, le plaisir et le goût. Donc, ça montre bien que nos amis anglais, Alex et Jimmy, avaient vu juste un peu avant tout le monde. Donc, maintenant, tout le monde parle de qualité, de produits sains, de plaisir pendant l'effort. Donc, c'est vrai que, à la fois, on a un peu perdu cette typicité, cette exclusivité dans le discours. Ouais. Mais d'un autre côté, on a, la marque jouit toujours de cette image. Pour ceux qui la connaissent depuis longtemps, d'être un peu une des premières à être arrivée comme ça avec ce discours naturel. C'est vrai que ceux qui nous découvrent aujourd'hui, bon, ils ont pas cet historique. Bon, ils voient quand même dans notre discours et dans les écrits et puis dans les packaging, on met en avant, nous, les fruits, les ingrédients, et pas du tout, encore une fois, la notion de performance ou de choses comme ça, parce que on essaye de rester la marque des sportives qui ne se reconnaissent pas dans des produits avec des noms un petit peu plus masculins ou des power où elles ont l'impression qu'elles vont avoir les poils qui poussent et qu'elles vont pas dormir la nuit, quoi. Donc on veut rester sur ce côté bar de monsieur et madame tout le monde, alors que certains sportifs de très haut niveau consomment aussi, mais c'est vrai qu'on joue pas ce côté élitiste, tu vois, des champions, des...
C'est pas un mauvais choix, parce que quand même la masse se situe quand même à ce niveau-là, donc de plus en plus de gens se mettent à faire du sport sur recommandations à la fois étatiques, mais des recommandations de bon sens à part du corps médical. Donc aujourd'hui, ça vient avec. Alors par contre, donc une petite question sur la provenance des produits. Où est-ce que vous faites fabriquer? Quel est le sourcing de vos fruits et de vos minéraux, enfin de tout ce qui constitue en fait la fabrication de ces barres et de ces gels?
D'accord. Alors, comme je te disais, la marque est anglaise. Donc, au début, lorsqu'on l'a rachetée, les barres et les gels étaient fabriqués en Angleterre. On a créé la gamme de purée de fruits, donc les compotes énergétiques, en 2016. Donc, ça, c'est, on les a sourcées en France. Elles sont fabriquées en Ardèche depuis 2016. Et là, d'ailleurs, le mois prochain, je lance une nouvelle référence, enfin, qui est une crème de marron qu'on me demande depuis des années et des années. Donc, c'est plutôt cool parce que ça, c'est du marron qui vient d'Ardèche.
D'accord.
Et donc les gels, eux, sont toujours fabriqués en Angleterre parce que les gels Mulbar, ils ont une spécificité, c'est qu'on est la seule marque à avoir un tube de gel qui est à la fois refermable avec un bouchon comme un dentifrice.
Ouais.
Le but étant d'éviter que le produit, une fois consommé, ne coule. Et que je disais tout à l'heure, quand ça coule, ça colle. Et quand ça colle, t'as qu'une envie. Si t'es pas très sympa, c'est de le jeter discrètement par-dessus l'épaule, au milieu de la Sainte-Victoire ou sur les bords du Ventoux ou dans le bois de Boulogne ou je ne sais où, et que c'est pas ça le but. Le but, c'est de... Et donc, le fait de mettre un bouchon, c'est que ton produit, comme il coule pas, tu peux le remettre dans ta poche sans que ça dégueulasse ton sac ou tes poches, et tu le ramènes chez toi.
Ouais.
Et surtout, comme on avait ces éco-recharges qui avaient été créées par Denis et qu'on avait intégrées dans la marque Mulbar, on est les seuls tubes de gel que tu peux rincer avec de l'eau chaude, en fait c'est du sucre, donc ça se dissout très facilement, et que tu peux réutiliser avec les éco-recharges. Donc nos tubes sont réutilisables.
Moi j'en ai encore dans mon tiroir, j'ai toujours mes petites éco-recharges.
Et sinon on a ce concept, comme tu disais tout à l'heure, des fioles en silicone qui sont, il faut le reconnaître, beaucoup plus facile à remplir, parce que le trou est plus large pour la remplir. Et voilà, donc on est vraiment sur la lutte contre l'utilisation du plastique à usage unique et puis des emballages que tu jettes, sachant que généralement dans les gels, l'emballage coûte quasiment plus cher que ce qu'il y a dedans, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc
c'est le problème d'ailleurs des compotes.
C'est un peu dommage de le jeter, quoi.
D'ailleurs, la compote, j'ai écrit un article sur une marque, la A+, tu sais, le gars qui fait des purées naturelles dans des Enfin, c'est comme les compotes qu'on donne aux enfants. En fait, il n'y a rien de pire du point de vue écologique que ces contenants qui sont finalement embarrassants, je dirais, après dans la...
Ils sont multimatières, ouais, c'est vrai.
Dans le recyclage, quoi. C'est un peu... Donc, c'est
exactement, un peu chiant, tout à fait. Et donc, comme je te disais, au niveau des bars, alors, juste pour finir, les bars jusqu'au mois d'août 2023 étaient fabriqués en Angleterre parce qu'on... Et on n'avait pas trouvé une en France qui était capable de nous faire le rendu, tout simplement parce que les barres elles étaient cuites. Ouais. Et qu'en France, aucune des usines de barres n'avait de tunnel de cuisson. Et donc, on ne voulait pas prendre le risque de faire des barres crues, comme faisaient nos concurrents, qui sont des barres souvent un peu plus cassantes, un peu plus sèches, que tu peux retrouver un peu en miettes dans le fond de ton sac quand elles y passent trop de temps. Et il s'avère qu'une des usines que j'avais vues il y a quelques années me recontacte début septembre 2023 en me disant « Grégoire, on a un nouveau procédé de fabrication, on n'a pas forcément de tunnel de cuisson, mais on a un mélangeur en fait qui tourne tellement vite pour associer les ingrédients entre eux, et ça monte tellement en température qu'on a un rendu qui est assez intéressant. Venez nous voir, on va vous contre-typer vos produits et vous allez nous dire ce que vous en pensez. » Donc j'y suis allé début septembre et en effet j'ai été bluffé par le rendu des produits copiés. Hein. Donc ils avaient fait les mêmes recettes que celles qui étaient fabriquées en Angleterre.
Ça gardait la même onctuosité.
Exactement, la même texture, voire mieux. Honnêtement, les barres, moi je les trouve bien meilleures, bien plus moelleuses encore. Alors qu'elles étaient déjà
parce que sans doute que la cuisson c'était aussi un effet un peu...
Ça desséchait un peu.
Destructeur sur le niveau du goût.
Ouais, au niveau des qualités organoleptiques aussi. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc ça permet surtout de pouvoir produire en France nos bars et c'est pas plus mal en fait de pouvoir clamer du Made in France. Ouais. Donc ça voilà, c'est super cool.
Bah écoute, c'est
et
c'est
donc parfait. Les gels sont toujours fabriqués en Angleterre parce qu'il y a aucun des fabricants français qui n'est capable avec les machines dont ils disposent de remplir nos petits gels qui sont un peu spécifiques.
Bah écoute, ça va venir.
YouTube.
Ça va venir.
Bah écoute,
il y en a qui vont peut-être se bouger un peu. Et du côté des nouveaux produits, donc tu nous annonces des boissons d'effort, donc ça c'est aussi une évolution dans la gamme.
Ça fait des années qu'on nous demandait des boissons, mais comme tu vois depuis le Covid, entre le Covid et puis mes ennuis on va dire judiciaires, j'avais pas trop la tête et surtout j'avais pas trop l'argent et je voulais pas prendre trop de risques à lancer des nouveaux produits, l'avenir étant très incertain. Donc, ça a été l'occasion, à partir du moment où on partait sur des nouvelles bases, j'ai lancé en novembre le travail sur des boissons, donc elles qui sont fabriquées dans le Massif Central, donc toujours du Made in France. Et donc, j'arrive là, je vais les avoir la semaine prochaine, je vais avoir une boisson d'effort et une boisson d'hydratation. Donc, boisson d'effort, c'est l'energy drink, une boisson avec des minéraux, des vitamines et puis du sucre qui apporte des watts pour carburer, pour fournir de l'énergie aux muscles. Et la boisson d'hydratation, c'est ce qu'on appelle les boissons électrolytes ou électrolytiques. Ouais. Ils sont des boissons non sucrées, mais qui apportent, elles, des sels minéraux et des oligo-éléments et des vitamines pour
ça,
compenser tout ce que tu perds
pour les crampes
par
et
la transpiration.
Ouais, pour
exactement.
Les crampes et tout ça.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Okay. Ouais. Là, je lance deux références avec des fruits rouges parce que on est tombé au bout de 3-4 essais assez vite d'accord sur le goût qui est super important parce que, comme je te disais tout à l'heure, Mulbar depuis le début, c'est le plaisir, c'est le goût. Donc, il était hors de question de lancer une boisson qui faisait le job au niveau.
Il faut que ça reste cohérent par rapport au reste.
Mais avec, exactement. Et c'est vrai que les premières versions, moi, je trouvais que ça faisait trop, pas assez naturel, même si ça l'était. Mais moi, ça me parlait pas. Et donc, on a réussi à trouver un accord. Et là, on est en train de travailler sur une version agrume, mais qui est un petit peu plus compliquée, pareil, pour trouver cette sensation d'avoir vraiment un vrai bon goût de fruits. Mais j'espère les lancer avant le mois de juillet. Donc, j'aurai deux autres références, toujours en boisson de l'effort et en boisson d'hydratation, au goût agrume.
Ok,
sachant que fruits rouges et agrumes sont les deux parfums les plus vendus sur le marché.
Tu nous tiendras au courant parce que c'est deux produits qui sont attendus effectivement dans le monde du vélo parce que effectivement
c'est très utilisé plus que les barres.
Ouais, parce que en fait c'est ce qui est plus facile à consommer quand on roule, surtout quand on roule un petit peu vite. après pour d'autres cyclistes, j'irais plus contemplatif. Évidemment, là, on peut prendre le temps de s'arrêter, de consommer sa barre tranquille, de regarder le paysage, en savourant sa barre Mulbar, et et puis repartir tranquille, sans avoir pris de risque, en se lâchant au niveau du guidon.
Ou alors il y a deux ambiances. Hein.
Moi, j'ai toujours ce petit truc en silicone, là, le conteneur, qui est quand même aussi sympa pour pouvoir y transférer du gel et le consommer au fur et à mesure. Voilà, bah écoute,
moi je suis
heureux de te retrouver. C'est vrai qu'on s'était un peu perdu de vue. On se connaissait, moi quand je faisais la course à pied, j'étais assez client de Mulbar. Et là, maintenant, dans le monde du vélo, je pense que vous avez une carte à jouer.
J'espère qu'on va pouvoir reprendre des. Quoi. Je vais reprendre, parce que je suis tout seul encore une fois, mais reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit, et puis repartir sur des bonnes bases. Mais... Ouais. Il n'y a pas de raison, parce que les produits sont bons, la marque est sympa.
Ouais.
Donc,
commercialement, comment ça se passe au niveau de la distribution? Tu as gardé ton réseau de distributeurs, ta fidélité, parce que tu as des clients qui sont quand même fidélisés. Parce que moi, je peux en témoigner. Enfin, quand tu es habitué à un produit que tu as apprécié, tu as une sorte de fidélisation par le goût qui s'opère.
Les consommateurs sont restés fidèles, parce qu'une fois que tu as trouvé ta marque, je parlais tout à l'heure de problèmes gastriques que tu peux avoir pendant l'effort, c'est suffisamment compliqué pour trouver la marque qui te convient, que quand tu l'as trouvée, tu vas pas essayer de passer à une autre. Donc non, j'ai une grosse fidélité consommateur. En revanche, ceux qui sont pas du tout fidèles, malheureusement, c'est les magasins. Et entre le Covid et mes petits ennuis judiciaires, beaucoup m'ont lâché en race campagne. Parce que, t'es tout seul, t'es le nain de jardin, et ils préfèrent travailler avec des gros, des marques qui sont fabriquées à l'autre bout du monde.
Ouais, qui leur mettent des PLV dans les magasins, des trucs
qui ont des commerciaux,
des
enseignes qui n'ont jamais voulu bosser avec moi parce qu'elles me disaient, non, t'as pas de commerciaux pour visiter nos magasins, donc ça nous intéresse pas. Ouais, mais pourquoi faire pour aller prendre une commande de 10 boîtes? Ça vaut pas le coup d'avoir un commercial.
Faut payer le commercial. Ou alors c'est le client qui paye au final. Donc, de toute façon, le produit va devenir trop cher et après il existera
donc plus. C'est vrai qu'avec le Covid, j'ai perdu quasiment tout l'export, où j'étais dans une vingtaine de pays, mais avec l'explosion des coûts de transport, ça vaut plus le coup d'envoyer des produits à l'autre bout de la terre. Et puis j'ai perdu une énorme partie de mon réseau de revendeurs magasins. Mais d'un autre côté, comme depuis le Covid, le marché il a vraiment permuté sur Internet, parce que les gens, ils ont envie d'avoir toute la gamme. Tu vois, quand t'es un adepte de Mulbar et que tu veux des barres, des gels et des compotes, il est rare que le magasin, de toute façon, propose l'ensemble de la gamme. Il veut toujours un choix. Ouais. Et donc, les gens ont pris l'habitude de commander sur Internet. Et c'est vrai que, un petit peu à l'inverse de ceux qui ont commencé sur Internet et qui maintenant s'intéressent au magasin, moi, j'ai commencé dans les magasins et de plus en plus, je me concentre sur Internet parce que c'est là qu'est ma communauté. Et puis, si les magasins veulent pas travailler avec moi, c'est pas grave, je serai sans eux. Et puis,
c'est comme ça. De toute façon, maintenant, on est parti dans une cohabitation des marchés physiques et Internet. De toute façon, c'est quasiment obligatoire, même pour les vélos. Toi, aujourd'hui, même les grandes marques... Cannondale ou d'autres font les deux, donc alors qu'ils étaient dans les magasins encartés à une certaine époque. Enfin, les mentalités changent. Effectivement, tu l'as souligné, le Covid a bouleversé énormément les pratiques commerciales.
Ça a énormément bouleversé les choses, clair.
Donc, écoute,
il faut s'adapter,
nous,
c'est comme ça
nous
dans
qui
le business.
Sommes, qui sommes By Café, un média internet, on fera un article évidemment sur tes produits. Et puis, dès que tu auras des boissons.
Avec grand plaisir.
Des boissons qu'on pourra goûter.
Je t'enverrai envoie-moi ça pour que tu puisses goûter. Ouais.
Envoie-moi des exemples et puis on les partagera dans l'équipe et puis on fera un retour gustatif
plaisir.
Et de comment dirais-je, d'efficacité. Ouais, je vais voir si je retrouve mes jambes de 20 ans. Si c'est une potion magique.
Je promets rien, je suis pas un druide, pas panoramique.
D'accord. Ok, écoute, tant pis, je garderai.
En tout cas, tu vas l'apprécier, c'est sûr, mais est-ce que tu vas retrouver tes jambes de 20 ans? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me commettre, mais je le souhaite.
Je suis réaliste quand même. Je suis rêveur, mais de temps en temps, quand même, je remets les pieds sur terre.
La tête sur les épaules.
Voilà. Écoute, Grégoire, ça m'a fait plaisir de te parler et de voir ce renouveau Mulbar qu'on attendait tous, pour ceux qui appréciaient la marque, et puis pour ceux qui la connaissent pas, j'espère la découvrir.
C'est l'occasion.
Et puis voilà. Et donc ils feront des essais, puis ils verront. C'est très bon en tout cas.
De toute façon, la nourriture, plutôt qu'en parler, il faut la goûter. C'est ce que j'ai toujours dit.
C'est exact.
Ça sert à rien de faire des longs discours. Et d'ailleurs, tu vois, je faisais goûter sur les salons. Les gens, ils achetaient directement. Il n'y avait pas besoin de raconter. Ah ouais, la nourriture, c'est immédiat. Hein. C'est ouais, tu aimes ou tu n'aimes pas.
Je me souviens quand
voilà.
on se croisait sur le salon du running au moment du marathon de Paris. il y avait la queue de presque des gens qui venaient goûter. Peut-être même qui refaisaient un tour pour regoûter.
Ah bah, je passais mes journées à couper des barres. Le soir, j'avais le bras en feu parce que, mine de rien, au bout d'un moment, t'en peux plus quoi, de couper les barres en petits bouts. C'est, c'est comme de faire les crêpes. Ça paraît pas très exigeant musculairement, mais à la fin de la journée, t'en peux plus. Quoi.
Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Grégoire. Bah écoute,
merci.
Au revoir, puis à très bientôt.
Ah, je te dis à bientôt, merci beaucoup.
Salut.
Salut.
Blabla, le podcast de Bike Café.